France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Victor Hugo a été enterré le 22 mai 1885 et des foules de Français ont accompagné son cercueil. 140 ans après, nous consacrons une série à cette légende du siècle qui n'a pas pris une ride. Et nous commençons cette série sur Victor Hugo en réfléchissant au conflit entre le bien et le mal, un problème qui traverse toute son œuvre, telle une philosophie sans cesse reprise. Dans les décennies 1820 et 1830, Hugo, jeune homme dans la vingtaine, puis dans la trentaine, est déjà tourmenté par le mal qui s'abat sur les hommes, détruisant leur vie, telle une fatalité. Ananke, fatalité, c'est l'inscription qu'on lit sur une colonne de la cathédrale Notre-Dame au XVe siècle, raconte Hugo dans son fameux roman de 1831, Notre-Dame de Paris. Quasimodo mourra de chagrin en tenant dans ses bras le cadavre d'Esmeralda. Et le théâtre hugolien met volontiers en scène l'amour impossible, impossible à empêcher tout autant qu'à vivre, s'achevant souvent dans le crime ou le suicide, ainsi dans Hernani en 1830 et dans Ruy Blas en 1838. C'est plus tard que Victor Hugo a repensé le bien et le mal comme deux forces qui bataillent au sein de chaque être humain sans que l'issue soit certaine. Les Misérables, c'est le roman qui, paru en 1862, est sans doute allé le plus loin dans l'idée que l'individu ménage toujours des surprises, capable de conversion vers la bonté alors qu'il a parfois commencé dans l'égoïsme et dans la violence. Il y a certes dans Les Misérables de Constance Salaud que la misère n'excuse pas comme Thénardier. Mais sa fille, Éponine, est une poignante figure qui cherche à être bonne et meurt dans le sacrifice. Quant à la conquête du bien sur le mal, Jean Valjean en est l'illustration même, tandis que l'inspecteur de police Javert finit par découvrir des dilemmes moraux dont il se croyait protégé par sa rigidité administrative. Bienvenue dans l'univers de Victor Hugo. Bonjour Franck Laurent.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature française des 19e et 20e siècles, auteur de plusieurs ouvrages sur Hugo, dont l'un, paru aux éditions Garnier en 2022, est intitulé « Littérature et politique mêlées, essai sur Victor Hugo ». Vous avez largement contribué aussi au dictionnaire Victor Hugo, également paru chez Garnier en 2023, sous la direction de Claude Millet et David Charles. Et bonjour Michel Guérin.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et écrivain, désormais professeur émérite des universités. Parmi vos très nombreux ouvrages, le romanesque, et singulièrement le romanesque au XIXe siècle, est un de vos objets de prédilection. Vous êtes déjà venu, dans Avec philosophie, nous parler de Stendhal. Les Misérables de Hugo vous passionnent aussi. Je suis impatiente d'entendre vos analyses sur ce qui se joue dans ce roman de Victor Hugo concernant la bataille entre le bien et le mal.
Jean Valjean n'était pas d'une nature mauvaise. Il était encore bon quand il arriva au bagne. Il y condamna la société et sentit qu'il devenait méchant. Il y condamna la Providence et sentit qu'il devenait impie. Ici, il est difficile de ne pas méditer un instant. La nature humaine se transforme-t-elle ainsi de fond en comble et tout à fait ? L'homme créé bon par Dieu peut-il être ainsi fait méchant par l'homme ? L'âme peut-elle être refaite tout d'une pièce par la destinée et devenir mauvaise, la destinée étant mauvaise ? Le cœur peut-il devenir difforme et contracter des laideurs et des infirmités incurables sous la pression d'un malheur disproportionné, comme la colonne vertébrale sous une voûte trop basse ? N'y a-t-il pas dans toute âme humaine, n'y avait-il pas dans l'âme de Jean Valjean en particulier, une première étincelle, un élément divin, incorruptible dans ce monde, immortel dans l'autre, que le bien peut développer, attiser, allumer et faire rayonner splendidement, et que le mal ne peut jamais entièrement éteindre ?
« c'est Nicolas Berger de notre équipe qui vient de lire pour nous un extrait des Misérables sur la figure centrale de Jean Valjean. Franck Laurent, qu'est-ce qui fait changer le bagnard Valjean? Et ce déclic pour Victor Hugo, ce déclic est-il pensable pour tous les méchants?
Alors, je commencerai par la fin. Pour tous les méchants, je ne pense pas. Il y a une figure des personnages de méchants chez Hugo qui est assez rédhibitoire pour le coup. Ce sont les envieux. Les personnages animés avant tout par cette passion basse qu'est l'envie. Mmh. C'est Thénardier, par exemple. On reste dans Les Misérables, très clairement, hein, c'est explicite.
Oui.
Ou dans L'homme qui rit, Barkilphedro, par exemple. Hein. Ou Salluste dans Louis Blas, et d'autres. Le cas de Jean Valjean, il est différent. Alors d'abord parce que le texte le rappelle, là il vient pas des zones du mal, il vient d'une sorte de zone assez anomique, parce que Jean Valjean, avant le bagne, c'est un personnage assez misérable à tous les sens du terme, hein, vraiment. Et la seule évocation un peu à la fois psychologique et morale qu'on a, c'est l'amour qu'il porte à ses neveux.
Oui.
Et après, c'est le bagne, en effet, qui le rend ce qu'il est, c'est-à-dire, le texte le résume, là, voilà, à la fois... Il n'y a pas d'envie, il y a de la haine.
Et il y a surtout ce que Hugo ne cesse de répéter, de la misère et de l'ignorance, puisque elle est tellement célèbre, cette phrase, que je me permets de la citer d'entrée de jeu sans en faire une lecture, disons, plus soignée par la musique et un enregistrement, vous me le pardonnerez. « Tant que les trois problèmes du siècle », écrit Hugo dans sa préface, « la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit ne seront pas résolus, tant que, dans certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. » Franck Laurent, s'il n'y a qu'ignorance et misère, ce qui est déjà énorme, mais s'il n'y a pas envie, égoïsme et âme mauvaise fondamentalement, l'individu méchant peut s'amender, peut changer.
Oui, heureusement. On peut prendre les choses autrement. La psychologie morale de Hugo n'est pas tellement informée par la notion de péché. Hein, c'est cette idée de péché originel que Baudelaire, par contre, lui renvoie. Hein, Baudelaire, répondant à cette préface dans son grand article sur Les Misérables, dit « tant que », etc., mais hélas, toujours. Hein, parce que Baudelaire lui ramène cette idée-là. Donc, oui, il y a des possibilités d'amendement, mais ces possibilités, elles sont souvent assez mystérieuses chez Hugo. Dans le cas de Valjean, par exemple, c'est pas seulement l'exemple magnifique de générosité de Myriel qui opère. Hein. Quand Valjean s'en va en prenant les chandeliers, le texte est très clair, il est à deux doigts d'assassiner Myriel.
Myriel, c'est donc l'évêque de Digne,
le juste, voilà.
Qui le loge lorsqu'il sort du bagne. Voilà. Et il le loge tellement gentiment, il lui donne à manger. Et le lendemain, Valjean part avec les chandeliers, il est pris par les gendarmes, et oui. Myriel, le voyant face à lui avec ses chandeliers, le sauvera une nouvelle fois en disant « Non, je l'ai lui donné. Voilà. »
À vrai dire, c'est encore plus malin que ça, puisqu'il part avec l'argenterie, et il est rattrapé, et quand on le ramène à Myriel lui dit « Mais vous avez oublié les chandeliers. »
Oui.
Voilà, qui vont devenir, pendant toute la vie de Jean Valjean, une sorte de... Mais pour sa conversion à proprement parler, il faut l'épisode avec le petit Gervais.
D'autant que oui, il va encore
ramoneur.
Prendre une pièce d'or à un pauvre paysan. Enfin, ça va mettre un certain temps
pour Valjean. Et c'est vraiment au moment où il reste comme prostré pendant presque toute une journée avec sa pièce de 20 sous sous le soulier et que le petit Gervais est parti depuis belle lurette, puis il a compris qu'il risquait un mauvais sort, qu'il y a une sorte de révélation, mais qui n'est pas du tout glosée, pas du tout expliquée. Et ça reviendra au moment de Tempête sous un crâne, par exemple, où il délibère pour savoir, quand il est devenu maire, là, pour savoir s'il doit sauver Fantine, enfin s'occuper de Fantine, aller chercher Cosette, ou se présenter au tribunal d'Arras pour éviter qu'un malheureux soit condamné à sa place, parce qu'on le prend pour lui, on le prend pour Valjean.
Pour ce qu'il est, oui, en face,
voilà.
Oui.
Voilà, on a 10 pages de délibération cordélienne, très rationnelle, avec argument contre argument, etc. À la fin de ça, rien n'est décidé, il s'endort, Il a un rêve, mais un rêve qui n'est pas facilement interprétable. Et à la suite, il se réveille et on le voit partir, mais sans avoir aucune accès à son intériorité. On ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce sont des choses qui arrivent, mais qu'on peut difficilement... du coup, le terme amendement convient presque mal, parce que on n'est pas dans une progressivité, on n'est pas dans une sorte de gymnastique psychologico-morale. En tout cas, pas pour les choses déterminantes. Ça
Michel arrive. Michel Guérin, y a-t-il fondamentalement un mystère dans la conversion qui, effectivement, connaît des sauts, mais il n'y a pas de linéarité, il n'y a pas de continuité. La conversion vers la bonté.
Oui, d'ailleurs, Hugo parle non pas en termes de conversion, parce que effectivement, son christianisme est quand même, disons pour le moins, relativement libre. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Il ne parle pas en termes de conversion, mais il parle en termes d'éblouissement. Le vocabulaire est un vocabulaire mystique.
Oui.
Le mot qui revient aussi souvent à certains moments, lorsque les personnages sont tout à coup comme stupéfiés ou terrassés par quelque chose qui les dépasse, donc qui peut être de l'ordre du mystère, c'est le mot de commotion. Et moi, je pense que au fond, Les Misérables, c'est l'histoire de la conscience. C'est un grand roman épique sur la conscience. Et bon, la question qui était posée tout à l'heure, c'est de savoir si l'étincelle divine du bien peut parvenir à sauver de la fange, à racheter toutes les âmes, même les plus tombées.
Oui.
Je crois que sur le plan des individus, la réponse est non. Je pense que Thénardier est une canaille, est un coquin, est un scélérat. On peut ajouter tous les mots qu'on voudra. Hugo a d'ailleurs des formules assez extraordinaires. Il dit que c'est un philosophe, c'est-à-dire, précise-t-il, un gredin de l'ordre composite, ou encore un coquin du genre tempéré, c'est-à-dire un salaud, comme on dirait aujourd'hui plutôt, qui conjugue toutes les bassesses.
Oui. Il est l'homme des
bas-fonds. De l'hypocrisie, du mensonge, du vol, il est prêt à assassiner. Donc, je crois que là, je parle sous le contrôle de mon partenaire de discussion. Je pense qu'un Thénardier n'est pas rachetable. Hein. Alors, ce qui vaut pour les individus ne l'est pas forcément au niveau de l'humanité. Et c'est là où on retrouve tout le problème de Victor Hugo, qui est le problème du progrès. Or, le progrès, il n'entend pas du tout en un sens positiviste. Le progrès, c'est Dieu. Et pour lui, la grande épopée, en quelque sorte, la grande saga métaphysique, c'est d'aller, dit-il, du monstre à l'ange. C'est expressis verbis, ces termes-là qui sont employés dans Les Misérables. Et il y a effectivement des êtres qui, individuellement, ne pourront jamais franchir ce pas. Donc c'est l'humanité qui le fera. Il y a un parallèle entre, au fond, l'histoire des individus et l'histoire de l'humanité.
Hein. Alors, on parle de Thénardier. Ce qui est frappant chez Thénardier, c'est que dès le début, tout est faux. C'est de la monnaie, la fausse monnaie.
Oui.
Puisqu'il est devenu sergent avec une médaille à Waterloo grâce à une méprise. Le colonel Pontmercy, qui s'avère être le père de Marius dans Les Misérables, mourant, en tout cas, il va finir par être sauvé, il ne va pas mourir de ses blessures, mais sur le front, il a l'impression qu'il y a un homme, ce Thénardier, qui est en train de l'aider, de le sauver, de le sortir, alors qu'il est blessé. En réalité, il est en train d'être dépouillé par cet odieux Thénardier, donc il est médaillé Thénardier, alors qu'il ne le mérite nullement. Tout est faux, tout est horrible. Et c'est d'autant plus horrible que cette histoire du père sur le front, c'est celle du père de Hugo lui-même. Et Hugo pense véritablement que son père a été sauvé par quelqu'un. En 1859, dans « Après la bataille », qui est un poème de la légende des siècles, Hugo a raconté l'histoire de son père à Waterloo, je crois bien. Écoutez.
« Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul hussard qu'il aimait entre tous pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille un champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit, C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant sur le bord de la route, râlant, brisé, livide et mort plus qu'à moitié et qui disait « À boire, à boire, par pitié !» Mon père, ému, tendit à son hussard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle et dit « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. » Tout à coup, au moment où le hussard baissé se penchait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit un pistolet qui l'étreignait encore et vise au front mon père en criant « Caramba !» Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. « Donne-lui tout de même à boire, » dit mon père.
C'est un poème qui semble parler, Michel Guérin, de l'incertitude ultime. Est-ce qu'on a affaire à un vrai salaud ou est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui a l'étincelle du bon dont vous parliez ? C'est l'histoire du père de Hugo, racontée par Hugo. Thénardier au front face au colonel Pontmercy est la crapule qui réussit en plus à ne pas passer pour telle.
C'est le type même de l'imposteur. C'est le... Mais en même temps, un imposteur sans grandeur. Parce que, et là, on est obligé tout de suite de faire la comparaison, le parallèle avec Javert. Parce que finalement, il y a des types du mal. Javert, bon, c'est quelqu'un qui est dans l'impasse, qui s'est trompé depuis le début. C'est le fonctionnaire qui se présente comme agent de l'autorité, au moment même où il est démasqué par Gavroche à la barricade, et où Enjolras lui demande « Mais qui êtes-vous ? Je suis agent de l'autorité. » Non pas un agent, je suis agent de l'autorité. Donc, c'est, on pourra revenir là-dessus, parce que il est notre contemporain, Javert.
Ah. Il mais ce n'est pas un vrai salaud non plus. Ce n'est pas Thénardier. Enfin, peut-être que Franck Laurent va venir mon secours, là.
Ce n'est pas un vrai salaud, mais c'est quand même... Non, ce n'est pas un vrai salaud.
Non, pas un salaud. C'est beaucoup plus complexe et du coup peut-être plus intéressant. Je vous écoute, Franck Laurent, sur Javert. Ou peut-être sur Thénardier, d'abord.
Oui, d'abord, même d'abord sur le poème. Parce que excusez-moi, mais c'est pas Waterloo, c'est la guerre d'Espagne.
D'accord, pardon.
Hein, et là, pour le coup, le combattant espagnol, je sais pas si on peut vraiment le comparer à Thénardier, parce qu'il fait preuve de courage aussi. Oui. Hein, il défend, bon, voilà.
Mais Pontmercy, c'est à Waterloo.
Ça, tout à fait.
Et je trouve qu'il y a quand même une analogie entre ces deux scènes.
Oui, on peut. Et quant au père de Hugo, il n'était pas non plus à Waterloo. Il défendait en 14 et en 15, 1800. Il défendait Thionville. Il était en charge de la défense de Thionville. Alors, Thénardier, je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire M. Guérin, et puis je le rappelle, c'est une des figures de l'envie. Ça, on a du mal à en sortir chez Hugo de l'envie. Mais en même temps, au niveau de la construction du roman, Hugo, qui est assez peu dialectique, en revanche, aime assez jouer avec les ruses de la raison, de certaine manière. C'est-à-dire que dans la dernière partie, Thénardier, sa dernière bassesse, c'est d'aller voir Marius pour lui révéler que son futur beau-père est un ancien bagnard. Donc il y va, évidemment, pour faire chanter Marius. Il y va déguisé en homme d'État, dit le texte. C'est quand même assez prodigieux. Ça nous fera peut-être la transition avec Javert. Et sauf que ce que sa démarche permet, c'est que Marius comprenne que c'est son futur beau-père qui l'a sauvé dans les égouts.
Que lui-même va sauver dans les égouts.
Que il a été sauvé, Marius, par Jean Valjean. Mmh. Donc en fait, la démarche de Thénardier s'inverse totalement, puisqu'elle va permettre finalement la reconnaissance finale sur le lit de mort de Javert.
Marius est sauvé, pardonnez-moi, j'ai mal prononcé le...
Marius est sauvé dans les égouts par Jean Valjean.
Par Jean Valjean.
Et donc la démarche de Thénardier s'inverse. Mais enfin, dernière inversion, avec l'argent que lui donne Marius, le texte nous dit que les Thénardier vont devenir négriers.
Oui, ils vont partir aux États-Unis avec sa dernière fille, Azelma, celle qui survivra.
Voilà.
On parlera d'Éponine aussi, si ça vous ennuie pas, parce que j'ai une grande tendresse.
Aussi, bien sûr. Sylvia Monfort dans Les Misérables.
Éponine, c'est la fille d'une crapule. qui n'est pas du tout une crapule, qui est d'abord capable d'amour vrai pour Marius. Elle crève de faim, Éponine, c'est la figure de la femme qui grelotte et qui amaigrit, qui crève de faim. Elle adore Marius et elle voit bien que Marius n'est pas pour elle, qu'il aime une autre. Et elle va aider les amoureux, elle va aider Cosette et Marius et elle va s'interposer à la barricade pour prendre la balle à la place de Marius. Thénardier a enfanté un ange.
D'une génération à l'autre, la notion de misérable se dédouble parce que Thénardier est doublement misérable. C'est un crève-la-faim, et donc, comme il ne travaille pas, c'est un paresseux, un crève-la-faim. D'ailleurs, le seul travail qu'il comprenne, c'est le vol. Au moment où, puisque vous aimez Éponine, il faut rappeler que c'est Éponine qui empêche son père, Thénardier, et sa bande de voleurs de pénétrer dans la maison de Jean Valjean, donc, enfin, de M. Fauchelevent, rue Plumet, pour dévaliser le propriétaire. C'est Éponine qui s'interpose, et vraiment au sens physique du terme, et qui empêche cette bande de filous de pénétrer dans le jardin. Donc, ce que je veux dire, c'est que Jean Valjean est deux fois misérable. Il est misérable comme envieux, comme égoïste, comme minable, comme pauvre type, quoi.
Valjean ?
Thénardier. Il est misérable en ce sens-là, mais il est misérable aussi en ce sens qu'il est tout le temps à chercher de l'argent parce qu'il meurt de faim. Alors que ses enfants, deux de ses enfants au moins, Éponine et Gavroche, sont des âmes. C'est ça qui est extraordinaire. Thénardier n'a pas d'âme. C'est l'homme des bas-fonds. Vous savez, il faudrait avoir le temps de citer tous les passages de Hugo sur la cave, sur la caverne, sur le gouffre, sur les bas-fonds, sur l'égout, bien sûr. Thénardier, c'est l'égout de la société. Mais il a enfanté deux êtres qui sont effectivement des âmes. Éponine comme amoureuse, et comme amoureuse altruiste, qui va aider, finalement, sa rivale en aidant Marius. Et d'autre part, Gavroche, le gamin de Paris, qui est également plein d'une spontanéité généreuse. Ce sont des généreux, ces deux personnages. Alors que Thénardier est un envieux, un méchant. Et lui, alors effectivement, il est, je dirais, irrattrapable sur le plan de l'âme.
Franklin, on voulait dire peut-être encore un mot. C'est dans l'égout, n'oublions pas justement que c'est dans l'égout, qui est une métaphore du pire pour Hugo, que Jean Valjean sauve Marius. C'est au fond du gouffre que la lumière naît.
Alors ça, par contre, en effet, on n'est pas du tout dans l'idéalisme. Avec Hugo, on n'est pas du tout dans l'idéalisme, à tous les sens du mot, propre sur lui, si j'ose dire. un des chapitres de l'égout, c'est « La boue met l'âme ». Toutes ces digressions, ces théories sur les bas-fonds, sur les caves de la société, etc., nous disent bien que là, on trouve tout en bas à la fois les misérables variantes Thénardier, mais on trouve aussi toute l'énergie sociale qui va permettre au progrès de sortir. On trouve les philosophes sociaux, on trouve les fourriers, etc., qui sont aussi comme ça dans la cave avec le prolétariat qui un jour va... Voilà, on est dans cette ambivalence. Quant à Éponine, oui, bien sûr, c'est important de rappeler cette figure magnifique. Non seulement elle meurt, en effet, en interceptant la balle destinée à Marius, mais plus généreux encore. C'est elle qui lui donne l'adresse de Cosette, qui avait perdu. Et surtout, cette phrase fabuleuse, qui était si bien dite par Sylvia Monfort dans la version de Le Chanois, avec Gabin dans le rôle de Valjean, elle meurt dans les bras de Marius, et elle dit « Ah, monsieur Marius, je crois que j'étais un peu amoureux. » C'est cette manière de parler en dessous, comme ça. On parle toujours de l'emphase de Hugo, qui est réelle, bien aimé, mais il a aussi cette capacité de dire des choses par en dessous. Mezza voce, je crois que j'étais un peu amoureuse de vous. Bah oui, tu parles.
Oui, c'est merveilleux. Et c'est vrai qu'une phrase pourrait presque s'appliquer à elle, qui est utilisée pour Myriel, l'évêque de Digne, ce tellement bon évêque qui montre ce qu'est la bonté à Valjean. Et Hugo écrit à propos de Myriel, « La douleur partout n'était qu'une occasion de bonté toujours. » C'est presque un vers, enfin c'est une phrase magnifique, et elle pourrait presque s'appliquer à Éponine, qui est toute douleur, et qui de cette douleur réussit à faire de la bonté. oui. Michel Guérin.
Et ce qui... Je reprends un petit peu ce que vous venez de dire, Franck Laurent, sur la simplicité de cette phrase. Je crois que j'ai été un peu amoureuse de vous. Les passages les plus beaux, peut-être, des Misérables sont ceux de cette simplicité-là. Parce que, finalement, pour Hugo, l'âme, lorsqu'elle est vraiment dans la lumière, et il faut qu'on parle de la lumière,
oui,
parce que c'est vraiment le signifiant essentiel des Misérables, et de Victor Hugo, peut-être, en général. La simplicité, c'est la lumière. Si vous me donnez le temps, peut-être, tout à l'heure, je dirais un mot sur Plotin. Je ne sais pas si...
Allez-y, maintenant, c'est bien,
Je ne sais pas si Hugo a lu Plotin...
Il en a entendu parler, au moins.
Il a certainement entendu parler, il a dû lire des choses de biais, de seconde main. Mais bien entendu, il est chrétien. Il est chrétien au sens où il est pour l'Évangile.
Oui.
Mais il dit quand même, nous sommes, puisqu'il parle finalement de façon un peu générale, nous sommes pour la religion et contre les religions. Contre les religions, y compris... l'Église telle qu'elle existe dans la société, surtout même telle qu'elle existe dans nos sociétés démocratiques chrétiennes, bon démocratiques entre guillemets, mais en même temps Hugo est beaucoup plus proche de ce néo-platonisme, c'est-à-dire que pour lui Dieu, il parle de Dieu constamment, Dieu il en donne quatre définitions, je vais très vite: l'absolu, la perfection, l'infini et l'infini, il m'en manque un. Bref, vous avez l'idéal. Bon. Le progrès, tout ça. Dieu, c'est la marche vers le progrès. C'est une conception quand même, avouons-le, un peu particulière. Mais si on regarde ce qu'elle signifie, non pas seulement politiquement, on parlera sûrement de la Révolution française, mais également métaphysiquement, c'est du Plotin. C'est-à-dire que Dieu est lumière. Et comme chez Plotin, cette lumière est tellement surabondante. Et on le voit bien chez Monseigneur Myriel,
oui,
qui éblouit. Cette lumière est tellement surabondante qu'elle ne peut que se distribuer comme les étages d'une fontaine. C'est les fameuses processions plotiniennes. D'abord, il y a l'intellect, l'intelligence. D'où, effectivement, la lutte contre l'ignorance, qui est un des thèmes essentiels de Hugo, qui n'est pas simplement un thème politique, qui est également un thème philosophique. Donc, l'âme, et puis en dessous, l'intelligence, et puis en dessous, les âmes. Et les âmes n'ont de cesse que de remonter vers la lumière. Elles sont destinées à la lumière. Le progrès, c'est ça. Monseigneur Myriel dit un moment à Jean Valjean, le progrès, c'est croire en Dieu. Et étonnamment, Hugo, à un moment donné, cite son ami Gérard de Nerval. Dans le texte des Misérables, il dit Gérard de Nerval me dit un jour... Dieu est mort.
Et peut-être mort.
Et Hugo ajoute, on a tort de désespérer, car dans ces cas-là, il faut simplement dire que le progrès est endormi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une marche linéaire vers la lumière. La lumière est toujours flanquée, doublée de l'ombre,
et Nerval disait
de ténèbres.
Bien, oui, dans Vers doré, Nerval dira plus tard, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Sous les pierres, il y a quelque chose qui vit, et dans la boue, il y a toujours une lumière qui attend d'être vue. Alors justement, puisque vous parlez de la lumière, Michel Guérin, je ne peux pas oublier que vous êtes un grand lecteur de Stendhal. Et je ne peux pas oublier que Marius, laissons là le père de Hugo, mais Marius était le fils d'un colonel d'Empire, qui donc n'a pas été sauvé par Thénardier, mais a été dépouillé sur le front à Waterloo par Thénardier. Stendhal disait, vous le savez mieux que personne, qu'à partir de la Révolution française puis l'Empire, on est allé de la lumière vers la boue. Et la boue, c'est la Restauration, c'est peut-être le monde des Thénardier, je ne sais pas. Est-ce que, au fond, dans l'itinéraire de Marius lui-même, qui est le fils d'un colonel d'Empire, qui va être royaliste, puis qui va doucement évoluer, qui deviendra révolutionnaire, on n'a pas le trajet à la fois de la lumière à la boue, puisqu'il va connaître la boue, la misère, Éponine, il voit cela de près, il est sauvé dans un égout, mais finalement, il y a de la lumière chez Marius.
Oui.
En tout cas, pour Hugo, c'est plus complexe que pour Stendhal. On va de la lumière à la boue, puis peut-être à nouveau, par la révolution à la lumière.
C'est en effet peut-être plus complexe, en effet, que pour Stendhal. Mais il ne faut pas oublier que pour Hugo, le bonapartisme de Marius est d'abord un sentiment de respect filial, de vénération pour le père mort comme un héros à Waterloo. N'empêche que Hugo dit aussi que un despote, même de génie, reste un despote. Et par conséquent, Marius ira plus loin que le bonapartisme. Le bonapartisme est une étape de son retournement, puisqu'il a été élevé par son grand-père Gillenormand, qui est une vieille ganache voltairienne, royaliste, pas bête, ouais, pleine d'esprit, mais avec tout de même des comportements et des sentiments extraordinairement réactionnaires. Donc il rompt avec son grand-père, il trouve son père quand il est à la mort. Il n'a même pas le temps de lui parler, car le père est mort quand il arrive. Et il est bonapartiste par amour, posthume, si j'ose dire, pour son père. Mais en même temps, il continue le trajet, si je puis dire, vers la lumière, qui est la Révolution, la République. Il va à la barricade parce que, effectivement, il y a... c'est peut-être pas la seule motivation, mais il veut en être. Il veut être de la Révolution française, qui est le grand avènement historique pour Hugo.
Alors, pardon, je voulais qu'on entende autre chose, on va le faire maintenant. Je vous propose de passer au personnage de Javert, dont la complexité mérite sans doute plus que les quelques mots que nous avons eus tous les trois au début de cette émission. Javert n'est pas un vrai salaud. Javert est complexe, et cette complexité, je voudrais que vous l'analysiez maintenant, Michel Guérin et Franck Laurent. Voici, pour commencer, une lecture d'un extrait des Misérables au sujet de l'inspecteur de police Javert, et nous enchaînerons par la fameuse scène des Misérables, mais nous serons dans le film de Robert Hossein de 1982, scène où Javert et M. Madeleine, c'est-à-dire Jean Valjean, sont confrontés à Fantine, et c'est très difficile comme situation.
Il y avait une incontestable grandeur dans ce Saint-Michel monstrueux. Javert, effroyable, n'avait rien d'ignoble. La probité, la sincérité, la candeur, la conviction, l'idée du devoir sont des choses qui, en se trompant, peuvent devenir hideuses, mais qui, même hideuses, restent grandes. Leur majesté, propre à la conscience humaine, persiste dans l'horreur. Ce sont des vertus qui ont un vice, l'erreur. L'impitoyable joie honnête d'un fanatique en pleine atrocité conserve on ne sait quel rayonnement lugubrement vénérable. Sans qu'il s'en doutât, Javert, dans son bonheur formidable, était à plaindre comme tout ignorant qui triomphe. Rien n'était poignant et terrible comme cette figure où se montrait ce qu'on pourrait appeler tout le mauvais du bon.
Qu'est-ce que vous faites là, Javert ?
Je vous attendais, monsieur le maire, pour une affaire qui me concerne. Voilà, monsieur le maire. Je demande à être révoqué.
Révoqué ? Comment ça ?
Je vous dois des excuses, monsieur le maire.
Des excuses ?
Il y a quelques jours, quand vous avez soulevé la charrette de Fauchelevent, j'ai d'abord cru que vous étiez l'homme que j'ai connu autrefois au bagne de Toulon. Ensuite, dans l'affaire de la fille Fantine, votre attitude m'a semblé si équivoque que j'ai cru discerner une complicité logique entre le forçat et la fille publique.
Vous avez fait votre devoir. Après tout, c'est votre fonction de concevoir des soupçons.
Un policier, s'il dénonce son supérieur, doit être sûr de ce qu'il avance. On a arrêté le vrai Jean Valjean.
Qu'est-ce que vous dites ?
On le juge demain aux assises d'Arras. Il finira sa vie au bagne. Vous comprenez maintenant, monsieur le maire, que je ne puisse survivre administrativement à mon déshonneur de policier. Je rentre chez moi pour attendre ma révocation.
Avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Et il est inoubliable ce film, en tout cas pour les gens de ma génération, je crois. Les Misérables de Robert Hossein, avec Lino Ventura en Valjean, Michel Bouquet en Javert, l'inspecteur. Javert, dont dont nous avons entendu le commentaire, la description par Hugo, et Hugo dit qu'il était poignant et terrible. Je vous écoute, Franck Laurent. Poignant et terrible, c'est-à-dire ?
Permettez-moi une parenthèse antérieure avant de répondre, je vous assure. D'abord, oui, elle est bien, cette version. Moi, je préfère celle de Le Chanois, mais elle est bien. Et Ventura est très bon aussi dans le genre.
Musique de Michel Magne et André Hossein, que je trouve assez poignante, jouée pour le coup.
Et Bouquet en Thénardier, c'est en Thénardier, en Javert, c'était excellent.
Et Thénardier, c'est Jean Carmet.
Oui, oui, qui est pas mal non plus. Je préférais Bourville, sur le coup, dans Le Chanois. Donc, très vite, sur le sauvetage du colonel Pontmercy, oui, bien sûr, il le dépouille, mais il le sauve quand même. Objectivement, c'est grâce à cette action de détrousse cadavre que Pontmercy survit à Waterloo. C'est-à-dire, il y a cette c'est pas sa faute. Hein.
Donc Thénardier est encore un peu indéterminé dans sa jeunesse à Waterloo.
C'est le hasard objectif. Ouais. Ouais, oui. C'est la providence. C'est la providence.
Alors Javert, s'il vous plaît, éclaircissez-moi.
D'accord. Moi, j'aurais qu'une seule chose à dire parce que je pense que Monsieur Guérin pourra développer. Mais dans le texte que vous nous avez fait entendre en particulier, il y a cette expression l'impitoyable l'impitoyable joie honnête d'un fanatique. Javert, ramené à sa dimension, disons, de fonctionnaire de police, c'est un Torquemada. L'autre figure, la figure claire, en quelque sorte, de ce que décrit ici Hugo à propos de Javert, c'est sa figure de Torquemada dans le drame éponyme, hein, qui est d'ailleurs à peu près, il écrit ça deux ou trois ans après la publication des Misérables. C'est-à-dire le Torquemada de Hugo, le grand inquisiteur, celui qui brûle à tout va, etc., n'est pas du tout un hypocrite, encore moins un intrigant. C'est quelqu'un qui sincèrement pense qu'il faut brûler les âmes en déroute pour les sauver.
Quelqu'un qui n'aime pas le mal tel qu'il le voit dans la société et qui pense qu'il faut une loi qui châtie.
Et une loi, parce que de toute façon, en plus, dans le cas de Torquemada, l'ici-bas n'est jamais qu'une vallée de larmes, hein, ce qui compte, c'est le salut éternel. Et donc, il y a une vraie sincérité dans l'action atroce de Torquemada. C'est pour ça qu'en effet, quelqu'un, même ramené au niveau d'un inspecteur de police comme Javert, c'est pas du tout le même cas de figure qu'un Thénardier, en effet. Mais je pense que...
Alors, Javert, donc il pense que la loi porte en elle le bien. En tout cas, le mieux qu'on puisse faire face aux criminels, aux délinquants, et notamment aux salopards de Thénardier. Parce que Javert, il veut vraiment avoir la peau de Thénardier. Et sur ce point, on ne peut pas tout à fait lui donner tort. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Valjean ? C'est vrai que dans la scène qu'on a entendue, Il trouve qu'il ressemble, ce Valjean qui a une force surhumaine et qui s'appelle maintenant Monsieur Madeleine, il ressemble à un Valjean qu'il a connu au bagne. Il a parfaitement raison, son intuition est juste. Mais ce Monsieur Madeleine, qui est l'avenir de Valjean, est si bon, si différent, il est perturbé. Il le met à l'épreuve. Parlez-nous de cette mise à l'épreuve, Michel Guérin, de Valjean par Javert, et pourquoi finalement, au bout du compte, c'est Javert qui va être mis à l'épreuve par cette épreuve. C'est-à-dire que toutes ses convictions vont chanceler.
Javert poursuit littéralement Jean Valjean sous tous ses avatars, sous tous ses noms. Il ne veut pas le lâcher. Non pas du tout parce qu'il croit qu'il est missionné par le bien. Le bien, il n'en a aucune idée, Javert. Son idée, c'est la loi. Son idée, c'est l'autorité. Son idée, c'est obéir à la loi. Et c'est ça qui justifie que Hugo, quand il parle très souvent de la loi, parle de damnation sociale, notamment à propos de la guillotine. Hein ? Pour Javert, quelqu'un qui commet une peccadille est un récidiviste en puissance. Donc, peu importe, à la limite, le mal causé, on se souvient que émondeur de son état, donc très pauvre, Jean Valjean a volé un pain pour manger.
Et la souffrance n'excuse rien, Fantine est dans la misère totale, elle vend ses dents et ses cheveux, elle devient une fille
des rues. Il ne veut pas le savoir.
Il ne veut pas le savoir.
Hugo dit de lui que c'est un cœur de bois. Ben, tout est dit. Et au moment où vous dites très justement que, curieusement, par une sorte de retournement, le roman n'est fait que de croisements de personnages. C'est extraordinaire. Il faudrait montrer, on pourrait faire un diagramme. Ils ne cessent pas de se croiser. On parle de providence. Tantôt, c'est en effet la providence. Il n'y a pas vraiment de hasard.
Non, c'est l'écrivain, là.
Les uns les autres, tous, 5 ou 6, ils finissent toujours par se retrouver. Et donc là, ils se retrouvent, Javert et Valjean. Mais à la fin, le juge, c'est Valjean. Comment est-il juge ? Il est juge au sens où Myriel, Monseigneur Myriel, l'a été pour lui. Tout à coup, Javert ne comprend pas la générosité de celui qui est devenu Monsieur Fauchelevent. Il lui dit « Vous êtes libre à la barricade ». L'autre est accablé, il comprend pas.
Parce qu'il pense que Javert pense que à ce moment-là, Valjean va le tuer. Il
Mais
a mille raisons de le
pas,
faire.
Il pense même pas, Javert. Hugo dit « Il est accablé ». Et le mot qu'il a à la barricade lorsque Valjean, au lieu de le tuer, comme il est supposé le faire d'un coup de pistolet, à l'écart, Javert lui dit « Vous êtes libre ». Et la réponse de Javert, c'est extraordinaire. Il dit « Vous me gênez. Vous me gênez. » Il est accablé par cette générosité.
Il est gêné, au fond, comme l'a été Valjean face à Monseigneur Myriel, qui le sauve du vol qu'il lui a imposé.
Sauf que là, il ne sera pas sauvé. Il y a eu effectivement un éblouissement du côté de Jean Valjean face à Monseigneur Myriel, qui a été salvateur, qui l'a mis sur la voie, malgré en effet la rechute du petit Gervais.
Mais Myriel, c'est la lumière du bien qui va entrer peu à peu dans Valjean.
Ça va rentrer, Jean Valjean va être transformé, métamorphosé, rénové, rafraîchi par cette lumière du bien. Javert, non. Javert est complètement imperméable à ça. Il comprend pas, il est accablé. Et je veux citer le terme, il dit « Cette larme dans l'œil de la loi ». Il y a une larme dans l'œil de la loi. La loi, normalement, est implacable. Et voilà que la générosité de Valjean à l'extrême fin, c'est une larme dans l'œil de la loi. Et une justice divine qu'il ne peut pas comprendre. Et il dit « Il en avait l'horreur et l'éblouissement ».
Donc il a quand même l'éblouissement. Et là, j'ai quand même une question. Javert va se suicider derrière.
Oui.
Il va se suicider. Donc, peut-on dire qu'il n'est pas touché par ce qui lui est arrivé avec Valjean, Franck Laurent ?
Oui, en fait, je suis d'accord avec Monsieur Guérin, mais je prendrai les choses un tout petit peu autrement. Vous dites, il n'y a pas le sens du bien. Non, aux yeux de Hugo, bien sûr que non. Mais à ses yeux, si. Parce que pour lui, le bien, c'est l'ordre. C'est pour ça que je dis que c'est un fanatique. Hein. Il n'y a pas de doute. C'est un serviteur de l'ordre. Et l'ordre incarne l'ensemble. C'est sa seule colonne vertébrale et sa seule manière de penser et de juger. Donc, l'ordre social équivaut au bien. Et d'ailleurs, y compris dans ses dimensions socio-économiques, disons, hein, lors de l'arrestation de Fantine, et quand il décrit la scène à Madeleine, il dit « Cette fille publique a molesté un bourgeois. Ça suffit. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de discuter plus loin. » Alors,
de toute façon, on
ne
peut pas qu'une fille des rues, il faut être enfermé.
Donc il y a une sorte là une image de l'ordre social qui est existant, qui ne peut pas être remise en cause d'aucune manière et par aucune voie. C'est ça, Javert. Et donc, tout le monde est déterminé par sa place sociale. Donc, une fille publique est-elle évidemment à mettre en prison. Et un bagnard ne peut qu'être un assassin. Donc là, il comprend plus. C'est Javert déraillé, tous ses repères s'effondrent. Donc, en effet, il y a quand même un effet de l'acte
la
de Valjean,
bonté de Valjean qui ne le tue pas
mais
quand il le pourrait, le bouleverse.
Voilà, mais alors que dans le cas de Valjean, ce sera le début, disons, d'une nouvelle vie, dans le cas de Javert, ça ne peut s'exprimer que par le suicide. Voilà.
Pourquoi ?
Parce que son univers s'effondre.
Il est dans l'impasse.
Il n'y en a pas d'autre pour lui. Plus rien, le texte est assez clair d'ailleurs là-dessus, plus rien n'est compréhensible, plus rien n'est vivable.
Donc c'est poignant et terrible.
C'est poignant et terrible, mais c'est en l'occurrence, dans ce cas de figure-là, stérile. Sauf, bien sûr, n'oublions jamais que Victor Hugo croit à la vie éternelle. Hein, pas de la manière du catéchisme, mais en tout cas, il y croit. D'ailleurs, pour dire, puisqu'on commençait par son enterrement, et qu'on a évoqué un peu le rapport à la religion de Hugo, hein, je vous rappelle en une phrase la fin de ses dernières volontés, « Je refuse l'oraison de toutes les églises, je demande une prière à toutes les âmes, je crois en Dieu. » C'est un croyant anticlérical. Bon.
Michel Guérin, je vous en prie.
Vous n'oublierez pas que je suis un pauvre, dit-il aussi.
Oui.
À Marius et Cosette, pour son enterrement. Vous n'oublierez pas que je suis un pauvre.
Tout à fait.
Et alors, évidemment, il y a le fait que la peine de mort et l'horrible guillotine, même si on dit qu'elle fait moins souffrir que d'autres manières de tuer, tout cela, pour Hugo, c'est ne pas comprendre que les hommes peuvent changer. Ils peuvent se suicider, comme Javert, quand tout s'effondre, ils peuvent devenir bons. Il y a des pages sur la guillotine dans Les Misérables, dans la partie qui s'intitule Fantine. Écoutez cet extrait.
L'échafaud. Quand il est là, dressé et debout, a quelque chose qui hallucine. On peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort, ne point se prononcer, dire oui et non, tant qu'on n'a pas vu de ses yeux une guillotine. Mais si l'on en rencontre une, la secousse est violente, il faut se décider et prendre parti pour ou contre. Les uns admirent, comme Demestre, les autres exècrent, comme Beccaria. La guillotine est la concrétion de la loi. Elle se nomme vindicte. Elle n'est pas neutre et ne vous permet pas de rester neutre. Qui l'aperçoit frissonne du plus mystérieux des frissons. Toutes les questions sociales dressent autour de ce couperet leur point d'interrogation. L'échafaud est vision.
L'échafaud et vision. Que veut dire Hugo, Michel Guérin ?
Hugo veut dire que la question enveloppée par ce monstre, d'ailleurs il le qualifie de monstre, ce monstre qu'est l'échafaud, c'est une question qui n'est pas abstraite. D'ailleurs le texte qu'on vient d'entendre le dit bien. Tant qu'on reste à des positions finalement abstraites, pour ou contre, ma foi, on peut être relativement indifférent. Mais quand on voit, d'où la vision. Or, la vision, pour Victor Hugo, c'est pas simplement la vision des yeux, le fait de percevoir. La vision, c'est, là encore, on est proche de l'éblouissement, c'est la révélation. C'est quelque chose qui se manifeste dans une clarté supérieure. Or, quelle est cette clarté ? Ben, Hugo le dit très clairement. Il dit, finalement, la guillotine, c'est l'usurpation par l'homme d'un pouvoir de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut châtier de cette façon. L'homme ne peut en aucune façon se l'autoriser. C'est un blasphème, c'est un scandale métaphysique que de d'ôter la vie à quelqu'un parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la portée du mal qu'il a fait, on ne sait pas ce que son âme est destinée à devenir, etc. etc. Bref, c'est la puissance qui est réservée à Dieu que l'homme s'arroge. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, il faut rappeler que Hugo a lutté contre la peine de mort depuis, je dirais, les tout débuts de sa carrière.
Oui.
On peut citer, bien sûr, Le Dernier Jour d'un Condamné, Claude Gueux, il n'a jamais
1829,
varié.
1829, sous une forme anonyme, puis Dernier Jour d'un Condamné,
voilà.
Puis republié avec une préface explicite avec son nom, en 1832.
C'est ça. Et donc, Hugo n'a jamais varié là-dessus, il ne cesse pas de dénoncer cette chose exorbitante qu'est la peine de mort, et notamment sous la forme de l'échafaud, qui est une vision horrifique, qui est une monstrueuse invention. Il dit c'est l'invention du charpentier et de la loi. Donc, la loi sociale, telle qu'elle est en tout cas au moment où Hugo écrit, en son temps, c'est une damnation. Par conséquent, condamner quelqu'un à mort au nom de la loi, c'est faire preuve de vindicte.
Et ici, Demestre, je ne peux pas m'empêcher de penser que, parce qu'avant d'avoir écrit Le Dernier Jour d'un Condamné, etc., dans les années 1820, le très très jeune Hugo était royaliste, était contre-révolutionnaire, tous ces gens... Il n'a jamais aimé Maistre ? Alors déjà, à cette époque-là,
oui.
Il n'aimait pas...
Le coup de la société fondée sur le roi et le bourreau, c'est quelque chose qu'il a toujours eu du mal à avaler, et évidemment, davantage encore, au cours de son évolution. Puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, je voudrais juste ajouter un mot sur ce texte qui est quand même très drôle, enfin très drôle, très bien monté comme toujours avec Hugo.
Sur l'échafaud.
L'échafaud au début, l'échafaud à la fin. Alors, l'échafaud, c'est toute forme de mise à mort. Seulement le centre, c'est la guillotine. Or, la guillotine, c'est la modernité en la matière. Et c'est la modernité révolutionnaire.
Oui.
C'est une invention de la Révolution. Alors, quand il dit « Demestre applaudit », bon, Demestre peut applaudir à la guillotine, quoique déjà, c'est un peu compliqué pour Demestre. Mais Beccaria, par exemple, Beccaria exsèque, ben Beccaria, il écrit le traité des délices et des peines vers 1750, il n'y a pas de guillotine encore. Donc là, on voit bien aussi comment indirectement, un peu subtilement, à bien d'autres endroits, beaucoup plus directement, on n'est pas du tout sur une condamnation de la Révolution, ça jamais, chez Hugo, bien entendu. Mais, en revanche, le pointage, là aussi, de son ambivalence. Contrairement à ce qu'on dit souvent, Hugo n'est pas un simpliste, y compris d'un point de vue politique. Et là, dans l'avènement de cette modernité révolutionnaire, eh bien, elle s'est faite en partie aussi grâce à la guillotine, en tout cas avec la guillotine. Et ce reste révolutionnaire, qui est celui de la modernité politique, est en même temps celui d'un mal qui remonte en fait aux origines. Et ça, c'est quelque chose que Hugo s'efforce de penser, et qui pensera jusqu'à la fin de son œuvre romanesque, 93, qui est vraiment tout entier tourné autour du spectacle de la guillotine. Voilà, on est là dans une des interrogations qui perdurent. Hugo croit au progrès, en effet, mais ce progrès est tout sauf linéaire et tout sauf simple.
Et Javert, pour finir, c'est celui qui croit tellement dans l'ordre de la loi qu'il n'a plus aucune larme, comme disait Michel Guérin. Et la guillotine, dans sa modernité, est parfaitement légitime. En plus, paraît-il, elle ne fait pas souffrir. C'est l'homme du progrès, des châtiments. Et c'est l'horreur pour...
qu'en outre, la manière dont Javert peut envisager la guillotine, je ne crois pas que le texte, d'ailleurs, en parle, c'est une manière totalement mécaniste. Et la guillotine, d'ailleurs, était aussi un peu inventée pour ça. Mmh. C'est une mécanique qu'on met en particulier pour mettre à distance l'acte du bourreau, l'acte humain du bourreau, du supplice lui-même. C'est-à-dire, c'est plus le bourreau lui-même qui tue, il ne fait qu'actionner la machine. Donc là, on est dans cette lancée, et Javert l'incarne bien, d'un ordre à la fois social, pénal, politique, qui devient une pure mécanique. Et ça, c'est un grand danger. Quand toute l'organisation sociale finit par mettre à distance, par toutes sortes de manières, l'appréhension concrète de ce qu'il fait, alors tout est permis.
Dites-moi ce qui se passe. Qui est mort? Qui a tué? Où je passe, le crime trépasse, l'ordre est en sécurité. Que chacun prenne bien garde, j'arrive toujours à mes fins. Je décore ceux qui mouchardent par devoir de citoyen.
Inspecteur, c'est cette fille qui a frappé le bourgeois. Pour quelques paroles gentilles, pour un compliment, ma foi.
Qu'on emmène cette roulure et qu'on la jette en prison. Qu'elle s'y fasse une droiture et retrouve sa raison.
Inspecteur, faites-moi grâce, je regrette ce que j'ai fait. Ma petite fille est malade, laissez-moi la liberté.
Qu'on emmène cette volure et qu'on la jette en prison. Qu'elle s'y fasse une droiture et retrouve sa raison.
Inspecteur, je suis malade, parfois je crache le sang.
Si tu crois que je vais croire tous ces pauvres arguments. Quand on veut rester honnête, il y a toujours un moyen. On fait fonctionner sa tête ou on travaille de ses mains. C'est moins sourd, c'est plus dur quand on va aux trois chemins.
Juste un instant s'il vous plaît, qu'on mette cette femme en liberté.
Mais monsieur le maire,
je crois qu'elle n'a rien fait de mal, transportez-la à l'hôpital.
Mais monsieur le maire,
est-ce possible?
Allez.
Mon Dieu.
Dépêchez-vous un peu. J'enverrai.
Ah, c'est donc toi, monsieur le maire.
C'est un extrait de l'opéra de Claude-Michel Schoenberg, Les Misérables, de 1980, celui qui deviendra, dans l'adaptation anglaise de Cameron Mackintosh en 1985, Les fameux Mises. Et ici, un passage avec Fantine Javert, Jean Valjean, et peu après, on entendra le fameux refrain « La misère enfante, la détresse ». Merci beaucoup Michel Guérin et Franck Laurent. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à l'intérieur et l'extérieur. Voici le pourquoi du comment.
Comment délimiter l'intérieur et l'extérieur ? Il peut sembler que l'intérieur et l'extérieur, ces deux catégories apparemment superficielles, mais peut-être fondamentales de nos vies, il peut sembler donc que l'intérieur et l'extérieur se donnent très simplement dans notre expérience, un petit peu sur le modèle du clos et de l'ouvert, mais d'une manière empirique tout à fait simple à comprendre, dans des images que chacun peut saisir comme si elles avaient quelque chose d'absolu et d'immédiat. Par exemple, l'image de l'intérieur, ce sera la noix, ce fruit qui semble imperméable, qui semble fermé comme une box, comme on pourrait dire aujourd'hui, comme un coffre-fort, une noix impénétrable avec cette muraille, cette membrane qui est devenue quasi solide et imperméable, même si, on le sait bien, comme les coquilles d'une huître aussi, les humains peuvent les ouvrir avec une forme de violence, même pour se délecter de leur intérieur et de leurs fruits. Il y a donc cette image de l'intérieur délimité par une coque, par une coquille, par une membrane, par quelque chose d'absolument impénétrable. Et d'un autre côté, il y a l'image de l'ouverture absolue et indéterminée, de l'extériorité pure, du dehors absolu, de l'ouvert. Il y a cette image qui, par exemple, dans la nature, dans notre vie, nous est fournie par l'horizon, si possible au-dessus de la mer, elle-même indéterminée. D'un côté, donc, la noix, le fruit clos, fermé, impénétrable. De l'autre côté, l'horizon ouvert, infini, indéfini, interminable. Alors, c'est facile. L'intérieur et l'extérieur, c'est donné dans les choses mêmes. C'est une question de perception, de définition, mais aussi de réalité. Il y a ces objets clos avec un intérieur fermé, et de l'autre côté, ces objets extérieurs et ouverts, tout à la fois. Mais en réalité, si ces images nous fascinent, c'est peut-être parce que la question de l'intérieur ou de l'extérieur est plus compliquée qu'on ne croit et révèle quelque chose comme une angoisse qui nous constitue, que ça n'est pas si simple pour nous. Et peut-être, et en effet, la thèse qu'il faudrait peut-être soutenir, c'est que nos subjectivités sont constituées difficilement, laborieusement, sans rien d'évident, par cette frontière, par cette limite entre l'intérieur et l'extérieur. Une limite qui n'est peut-être pas si objective et si physique, pour le dire tout simplement, qu'on le croit. Bien sûr, l'être qui a un intérieur absolu, c'est forcément l'être vivant. L'intériorité d'un objet physique, d'une valise, d'un coffre et même peut-être d'une pierre, elle se brise sans se détruire. Vous pouvez casser la pierre, elle sera tout aussi extérieure et intérieure à la fois, elle ne sera pas détruite. On appelle intérieur ce qui, en se brisant, brise l'individu lui-même. Et donc tout être vivant a un intérieur, ce que Claude Bernard, au XIXe siècle, appelait le milieu intérieur, qui le fait vivre, qui le régule. Et donc nos corps définissent un intérieur. L'intérieur, c'est toujours l'intérieur d'un corps vivant. Mais pour les êtres humains, c'est encore plus compliqué. Et la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie ont bien raison de montrer que ce qui constitue l'intériorité, c'est notre représentation de nous-mêmes dans ce corps. Oui, il y a un moi dans ce corps, avec une frontière qu'il n'arrive pas toujours à construire parfaitement. La preuve en est qu'il y a des pathologies de l'intériorité et de l'extériorité. Il y a la perte du sens des frontières, de sens aussi de l'intériorité, et entre les deux, il y a cette surface magique, mystérieuse, fragile, qu'est la peau comme enveloppe, comme le dit le grand psychiatre et psychanalyste Didier Anzieux, la peau qui a ses maladies, ses pathologies, mais aussi ses merveilles, ses caresses, sa découverte du monde. L'intériorité et l'extériorité, ça n'est pas une évidence fermée, c'est un mystère à creuser.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Anna Feulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Chaïma Giboire, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.